Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Et aujourd'hui, on s'attaque au Dupuis Cinematic Universe avec Boule et Bill 2 de Pascal Bourdieu, avec Franck Dubosc, Mathilde Seigné et aussi un petit garçon rouquin. Je suis Daniel Andreev et mon équipe de joyeux drilles, c'est Mac Besnard.
Salut Daniel.
Et Hugo Alexandre.
Bonjour Daniel.
Salut les copains, c'est moi Bill l'éclair. Je suis de retour avec mon meilleur ami Boule. Vous vous rappelez la famille que j'avais adoptée?
Quelle est belle la babalo bibi.
J'ai réussi à en faire une famille exemplaire.
Il lui donne son sucre le papa.
Il a quand même quelques problèmes d'élocution.
Il va crocrocro, crocrocro, crocroquer, crocroquer avec ses dents le sucre.
Je suis un chien, je parle mieux que lui. Mais depuis quelques temps, ça tourne plus vraiment rond.
On est trop heureux. Nous les artistes, nous nourrissons de notre malheur pour créer. Victor Hugo, il a écrit Les Misérables, hein. Pas les gens riches.
Est-ce que cette vanne, est-ce que Franck Dubosc ne vous a pas balayé là?
C'est Franck Dubosc qui est la seule chose à sauver de ce film.
Ah non, non, bah, je vais être beaucoup plus...
Ah, je suis pas d'accord, il y a une deuxième chose, on va parler après.
Je vais être beaucoup plus généreux. moi, je suis grand fan de Franck Dubosc et je pense toujours que c'est un mec qui attend sa grande comédie. Peut-être qu'elle viendra jamais, peut-être que...
Ah, parce que c'est pas cinéman.
Non, ce n'est pas si.
Il y en a eu des bonnes comédies.
Non, non,
Franck Dubosc.
Il a eu des très bonnes comédies, mais il attend son classique. Il attend vraiment le film.
Et alors, peut-être que ces classiques vont surgir rétrospectivement plus tard.
Déjà, tu vois que l'embarquement immédiat, il est en train d'être réévalué à la hausse.
Bienvenue à bord.
Bienvenue à bord. Voilà.
Pas confondre ça avec Harry Habitant.
Non, mais le problème, c'est qu'entre celui-là et La Croisière aussi. Non, mais le problème, c'est les films de croisière exploitation. À chaque fois, je les confonds. Et Franck Dubosc, qui est bien dans celui-là, c'est qu'il s'en donne à cœur joie puisque. Le matériel, faut resituer. Boule et Bill 1, alias Boule et Bill Origins, nous mettait en scène.
T'as pas le droit de dire ça.
Non mais attends, je vais aller loin. Nous mettait en scène dans Franck Dubosc qui est en fait Roba. C'est ça le twist final, c'est qu'en fait on découvre que Franck Dubosc est l'auteur de Boule et Bill, la bande dessinée, et que c'est un film méta sur la création de Boule et Bill, mais aussi sur le drame des banlieues. C'était ça le
Non mais tu vois beaucoup trop loin en fait. Hein. C'est un mauvais film qui est pas drôle, c'est tout.
Tu parles du deuxième.
C'est pas un mauvais film, c'est
le premier. Il est absolument nul.
Pur film pour enfants stupides, disons.
Alors attends, pour enfants stupides ou un film stupide pour enfants?
Non mais je pense qu'il y a des films pour enfants beaucoup mieux que ça. Mais je pense que si j'avais eu ça quand j'avais 6 ans, j'aurais été très content. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup mieux quand même.
Non mais
même pour les enfants.
Alors le truc c'est que voilà, Franck il attend son matériel. Le matériel génial qui viendrait le sauver, dynamiter sa carrière, et il ne vient pas, et donc du coup il prend tout ce qui passe et il le transforme, et avec du caca il le transforme en bonbon littéralement. On l'a vu.
Non, dans... il le transforme en blanquette de veau de la cantine, quoi. c'est moyen, quoi.
Non, et alors, voilà pourquoi je pense que il y a beaucoup de choses à sauver dans ce film. C'est que si Boule et Bill 1 était, Boule et Bill 1, c'était donc Boule et Bill Origins, celui-là, c'est le Dark Knight, les amis. C'est le Dark Knight du Puis Cinematic
Universe. Non, mais ça,
Universe.
C'est dans ta vie fantasmée, mais c'est pas comme ça que ça se passe quand t'es dans la salle et que tu vois le film.
Et je vais vous expliquer, pourquoi. C'est que dès le début du film, Nora Hamzaoui, qui joue le rôle de son éditrice, elle est en train de lui dire « Non, mais il faut que tu fasses des choses plus dark, il faut que tu fasses pas des trucs pour enfants, il faut que tu fasses des trucs atroces, il faut que tu fasses de la douleur, triste. De la souffrance, triste, il y a que ça qui fait vendre. » Et donc, pendant tout le film, Franck Dubosc, parce qu'on finalement, on s'en fout du chien, on n'a toujours pas parlé des autres acteurs, on s'en bat les steaks, Franck Dubosc va essayer de rendre sa vie plus triste. Il va essayer littéralement de Bruce Wayne-iser de Christian Bale-iser sa vie, et il se met jamais des problèmes. Il se dit, ah non, on est trop heureux et on est trop heureux. Et alors, du coup, il dit, il essaie de rompre avec sa femme, mais sans rompre avec elle. C'est d'un niveau de bêtise proche de Guignol. Et en même temps, je trouve que ça touche au génie parfois quand il
Moi, je pense
que
c'est une très bonne idée de ce pitch là. Je trouve très bien.
Ah, tu vois, quand je réécris les comédies,
non,
ça marche.
Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que la mise en application de cette idée est nulle, quoi. C'est-à-dire que
alors, c'est moins bien
la manière dont il veut semer la zizanie dans sa famille, c'est faire pipi dans les roses de sa femme, c'est se mettre un slip sur la tête pour intimider le voisin. C'est vraiment, enfin, c'est Franck Dubosc arrive à en faire quelque chose, c'est dire le génie du gars, quoi. Mais c'est vraiment pas.
Pour être tout à fait honnête, il y a quand même pas beaucoup de scènes avec Dubosc où on a rigolé.
Si moi j'ai vraiment
arrête de m'étonner.
Non et je trouve que le début avec Hamzaoui qui joue en fait la méchante éditrice,
c'était prometteur au départ.
Et il faut le dire, un truc, on n'a toujours pas parlé des autres acteurs, on a parlé que de la première scène avec Franck Dubosc et Nora Hamzaoui. Nora Hamzaoui est géniale, en fait, c'est une super bonne actrice, pourquoi on la voit pas plus dans le cinéma?
Moi je suis pas fan du tout.
Moi j'adore, et sa manière,
ça fonctionne plutôt bien.
Moi je trouve que elle a une manière de jouer l'éditrice un peu biatch, comme ça, un peu
celle
qui est super exigeante. Alors moi je suis plutôt bon client, moi j'aime bien.
Mais alors, en fait, on parle pas effectivement de Boulet Bill depuis tout à l'heure, mais moi je vois d'un bon oeil le fait qu'on voit de moins en moins Bill, parce que c'était un gros point faible du premier film, c'était Bill et Boule aussi. Enfin, c'était... et en plus, dans ce film, Manu Payet prend une voix encore plus aiguë de chien, de comédie, vraiment relou. Pour moi, quelqu'un qui devait jouer Bill, c'était Alain Chabat ou Gérard Darmon avec leur vraie voix, quoi. Ça aurait créé de la comédie, mais lui il fait bonjour, et au début du film...
Il se la joue un peu. Ouais, salut les copains.
Et au début du film,
il y a d'autres chiens.
On voit encore beaucoup trop Bill, c'est-à-dire qu'il y a Franck Dubosc qui déroule son intrigue et il est entrecoupé de Bill qui fait des remarques genre ah ben oui, il a raison de dire ce qu'il dit, alors qu'on en a rien à foutre de Bill.
Je suis d'accord avec toi, le lip sync de tu vois clairement qu'il est doublé, hein, c'est pas sa voix d'origine.
Le pire dans le 1 c'est la tortue Caroline doublée par Sarah Giraudot. Je crois qu'ils ont changé le doublage et ouais. C'était vraiment affreux, c'était très gênant.
C'était très gênant parce que il y a effectivement, et c'est pour ça que Boulet Bill 2 est meilleur, et ça c'est indéniable, c'est que il y a pas de scène de sexe entre le chien et la tortue joué par
c'est
Sarah
pas que
Giraudot.
Pour ça faut être,
non non
faut,
si,
faut
si,
tout
si.
À fait
rien que pour ça ce film est meilleur, je t'assure.
Bon, si tu veux, mais cela étant, il y a quand même plus de moments rigolos, justement, avec du buzz, des moments absurdes. Il faut être honnête, le gosse qui joue Boule est quand même bien meilleur dans le 2 que le gosse qui jouait Boule dans le premier. Je le trouve beaucoup plus naturel dans ses répliques, contrairement d'ailleurs à tous les autres gamins du casting qui sont absolument atroces. Et il y a une scène avec un chat aussi, et ça c'est bien, parce que la scène avec le chat, avec Caporal, elle est quand même plutôt pas mal. Le chat joue beaucoup mieux que tous les chiens réunis.
Là on sent la team.
Non, je sais, je suis pas du tout objectif.
Là où le film est beaucoup mieux que le premier, c'est qu'effectivement, dans le premier film, on a vraiment une impression de solitude totale et vraiment désespérante. C'est une famille en vase clos. L'enfant, il a pas d'amis. La mère reste chez elle toute la journée. Le père, il va au boulot que pour se faire engueuler.
Mais c'est un film sur la dépression des banlieues.
Ouais, c'était vraiment déprimant, quoi.
C'est les banlieues Origins, même, carrément.
Et dans le deuxième film, on voit Boule à l'école, il y a des copains, bon, il y a aussi un rival, mais voilà, il y a Pouf qui provient un personnage qui provient de la BD. Il y a beaucoup plus de personnages, c'est beaucoup plus clair, joyeux, et donc, on a moins l'impression d'être en dépression.
On va se passer quelques blagues pour oublier la dépression.
J'essaie de comprendre là où c'est parti en cacahuète, mais c'est pas facile. Bill, fais pipi sur les rosiers à papa. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il devient fou! Fais des bêtises! Allez, vas-y! Comment ça va, bonjour? Comment ça va?
Vous êtes en train d'uriner sur mes chaussures?
T'es con, ça s'est bien passé.
J'ai eu un 18 en histoire.
Faut arrêter d'être un petit garçon modèle, hein.
Je vous sers de l'eau, madame.
Et ça continue, encore et encore! Non mais tu vas arrêter, petit insolent? Qu'est-ce que c'est que ces manières?
Boule et moi, deux!
Chérie!
Maman!
Et là encore, c'est que le début.
Alors, c'est les montagnes russes niveau rire.
C'est frustrant, hein, parce qu'il y a quand même des bons passages dans ce film, malgré tout. Il y a des bons moments, des bonnes phases avec Dubos. C'est vrai que c'est très, très frustrant de se dire que...
Qu'est-ce que tu fais, petit assolant?
Ouais, non, mais il y a vraiment des phases complètement loufoques par moments.
En fait, le problème de ce film, c'est que c'est une adaptation de Boule et Bill. En fait, il n'y aurait pas Boule et Bill, ce serait un film de Dubos que... génial, quoi. Mais c'est...
Oui.
Voilà, c'est...
Alors, c'est vrai, le gamin joue vraiment bien, en fait. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres gamins. Ouais,
non, vraiment bien, j'irai pas jusque-là, mais il est meilleur que dans le
pour
premier.
Pour un enfant, ça va. Mais
ça va.
C'est quand même, pour un enfant c'est français, en
français,
plus.
Français. Ouais, c'est pas Spielberg derrière la caméra, ça se voit. Mais mais ça va plutôt bien.
L'arc narratif de Boule n'a pas un grand intérêt, quand même. Et on peut pas dire que l'acteur...
Il tombe amoureux.
De Charlotte, et il passe tout son film à lui courir après.
Ouais. Ça se résout avec la phrase « On va faire sauter une grenade, la grenade de l'amour ». J'ai jamais entendu un truc pareil à la fin d'un film. Quoi.
Je pense que ça, j'ai voulu l'effacer de ma mémoire.
Vous dormiez.
Il y a vraiment un problème avec le chien, quand même. Le chien, on pourrait l'enlever de l'histoire, presque. Il sert pas à grand-chose. En fait, ses mots d'esprit sont pas assez suffisamment intéressants, quoi.
Oui.
Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est très très difficile d'adapter Boule et Bill parce que c'est une BD, c'est des gags sur une page, ouais, et c'est des gags
en mode vignette.
C'est vraiment pour les enfants déjà, la BD. Donc, comment t'adaptes ça à l'écran? T'es obligé de zapper un des deux personnages
et en plus, ils peuvent pas se parler comme ils se parlent dans la BD.
Ouais,
il y a plein de problèmes.
C'était une mauvaise idée d'adapter ce truc, en fait.
Ou alors peut-être en image de synthèse par Spielberg, tu vois, un truc.
Non, mais finalement, le problème, c'est
Tintin,
que. Le problème, finalement, c'est que, l'idée du premier était quand même plutôt pas mal de vouloir mettre en scène la vie du dessinateur lui-même et la façon dont il aurait potentiellement pu créer Boule et Bill. Mais effectivement, ça tombe assez rapidement à plat. Ça tourne beaucoup en rond. Dans le deuxième, c'est encore plus flagrant. Je pense que l'idée de départ était intéressante, mais ils n'ont pas réussi à l'exploiter jusqu'au bout. Peut-être qu'ils auraient dû s'éloigner du cadre purement BD en disant bon voilà, on oublie ce côté, c'est le dessinateur, parce que ça revient quand même tout le temps, il est tout le temps sur cet argument. C'est lourdingue au bout d'un moment.
Il aurait fallu que des vrais auteurs de comédie, mais très marqués, écrivent quelque chose qui sorte du Boule et Bill originel, comme avait fait Chabat avec Astérix, alors que déjà Astérix se prêtait plus à faire un film déjà. Il fallait vraiment qu'il y ait une patte d'auteur, quoi, alors que là
Je pense qu'il y a vraiment des petites bribes des petits miracles comme ça, des tout petits trucs qui font que c'est pas un truc honteux où emmener ses enfants.
Tu es aveuglé par ton amour pour Dubosc, en fait, c'est ça la vérité.
Bon, plus généralement pour boucler sur Boule et Bill, quid du Dupuis Cinematic Universe, quoi. Je veux dire, après Boule et Bill, qu'est-ce qui reste avant? Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une étincelle de passion pour le projet Spirou?
Ah, pas du tout.
Ou Young Spirou?
Absolument pas.
Alors, c'est celui-là où il y a un casting assez étonnant, genre... Je confonds avec un autre truc. Il y a une adaptation de BD qui va sortir avec, je crois, Catherine, Jean Rochefort, des choses comme ça. Donc,
Catherine, il est tout le temps dans les coups comme ça. Hein.
Ouais, mais je confonds avec un autre truc. Dans Spirou, je crois que c'était pas très hype.
Alors, attends, moi, je vois il y a le Spirou de Spirou et Fantasio avec d'Alexandre Coff, avec Thomas Oliver, Alex Lutz, qui joue donc Fantasio, et Ramzi Bedia, donc j'imagine qu'il joue quoi, Zorblub.
Oh là là.
Et il y a le petit Spirou, donc rigolez pas, puisqu'on va devoir...
Ah oui, c'est ça, le petit Spirou, ça m'a un peu plus. Il y a quoi
donc, déjà? Donc il y a Natacha Régnier, et Natacha Régnier, pour qu'il me fasse rire, il va falloir quand même se lever le bonheur. Mais surtout, il y a Pierre Richard, quoi. Mm-hmm. Mais c'est très bizarre, parce qu'en plus tu vois toute sa famille, ils sont tous habillés comme des majordomes. Il y a un truc de je sais pas si Spirou c'est le...
Qui fait le petit Spirou? C'est de qui?
C'est Nicolas Barry.
Qui c'est.
Je pense que c'est un mec qui l'a envoyé au casse-pipe. Mais on lui souhaite bien. Vraiment, je lui souhaite bonne chance. Quoi, mais
on parle un instant de Mathilde Seigné ou on n'en parle pas du tout?
Oh, putain, j'essaie d'esquiver le.
Ouais, je sais, je te vois depuis tout à l'heure, tu tournes autour. Mais
qu'est-ce qu'on te remploie?
Qui remplace Marina Foïs?
Écoute, je sais pas si Marina Foïs aurait pu tenir le même rôle de je marche sur une peau de banane, ça marche pas, et je marche ensuite sur un
râteau.
Sur un râteau, et je là, me ferai casser la tête. Je sais pas si Marina Foy est capable de ça. Je sais pas si c'est son registre de comédie.
Mathilde Seigner est pas capable de ça non plus, donc qui est capable de ça?
Enfin, quand mais tu vois la si scène, elle le fait avec. Presque avec joie, je pense. Hein.
Non, mais déjà, Marina Foïs, dans le premier, c'était un peu bizarre. Je trouvais que c'était pas hyper pertinent. Et là, c'est pareil.
C'était bien dans le cadre de la du film dont on parlait, de la dépression dans la banlieue.
Mm. Oh, ouais.
Oui. Ah, si, si. Si, elle avait un truc.
Dans ton analyse, oui, effectivement, mais je l'avais pas vu vraiment comme ça.
J'aurais beaucoup aimé voir ce film avec tes yeux, en fait, je crois.
Ouais, je pense que vraiment. Ouais, en fait, je vais faire une version commentaire.
Ça sent beaucoup plus drôle.
Commentaire audio. Bon, allez. Combien vous donnez, Max?
Alors, 4,50€, parce que c'est le prix d'un ticket pour enfants au cinéma, en moyenne 4,50€, je crois. Hein, donc voilà, pas plus, parce que honnêtement, il y a quelques moments où j'ai rigolé. J'aurais bien aimé être avec petit-neveu, petite-nièce. Je pense qu'on se serait bidonné ensemble. Là, bon, avec toi à côté,
c'était différent. Tarte à la crème, quand elle tombe sur la tarte à la crème, là, ça, et qu'elle tombe dans l'escalier.
Ouais, non, ça, c'était pas drôle du tout.
Pas drôle du tout.
Non, c'est pas drôle du tout. Non, non, non. Je sais pas si je me souviendrai très, très longtemps d'un gag. Tu vois, si tu me reposes la question dans un an, qu'est-ce que t'as retenu de ce film? Je suis pas sûr de pouvoir te répondre. Donc voilà, ouais, 4€, je pense que c'est très très largement honnête pour un film pour enfants.
Ouais, moi je pense si vous avez plus de 8 ans, 0. Et si vous avez moins, est-ce qu'on peut gâcher de l'argent de poche pour chose pareille? Autant acheter des bonbons, je pense. Non, 0 aussi.
Un 0 aussi?
Ouais.
Non, moi je pense que c'est pas trop mal pour les gamins. Je pense que 4€ pour un gamin.
Faut voir ce qui est sorti en même temps pour les enfants en fait, parce que il y a d'autres trucs.
Alors, faut quand même préciser en ce qui nous concerne, quand on est sorti de la séance, il y avait deux trois gamins dans la salle et ils étaient au taquet. Hein, ils étaient bidonnés pendant la séance.
Les, gros succès sur les scènes scato, genre caca, le pigeon qui fait caca sur la tête de boule.
Et moi je donne donc les 4€ pour. Non, donc pour Franck Dubosc, pour cette vision étrange de cet impresario, cet agent, cet éditeur qui lui dit il faut que tu sois noir, il faut que tu fasses ton Dark Knight, et qui s'obstine pendant tout le film à essayer de se noircir la gueule et à faire. Il y a une scène extraordinaire où il est en train de faire ses adieux à sa meuf, mais en fait il va juste dans la cabane du fond du jardin. C'est à se pisser de rire.
Et ouais, c'est surtout la manière dont il le joue.
C'est un ridicule. Il le joue, mais comme si. Putain. Comme si Pénélope, elle voyait partir Ulysse, tu vois. Enfin, vraiment, c'est genre le drame de sa life. Oh là là, putain, mais il y a quelques bonnes scènes dans ce film, quand même. Allez, on va passer au reco. Je sens que tu en as une.
J'en ai une, et je me dis que quitte à voir un film d'enfant, un film pour enfant, autant voir un Disney. Et j'en profite pour faire un peu de promo pour mon blog toutestneutral.com, où j'avais fait un top de tous les Disney, je les avais tous vus dans l'ordre, pour ensuite les faire une hiérarchie. Et j'avais mis en premier Rock et Rookie, mais c'est pas un film très drôle en fait.
Ah non, c'est horrible.
C'est tellement tragique que c'est magnifique, hein, mais il faut pas le regarder pour rire. Par contre,
ça a traumatisé des enfants.
Ouais. je vais plutôt partir sur Bambi.
En fait, c'est un Bully Bill Rise.
La mère de Rookie ou de Rox, le renard, elle meurt dès le début, quoi. Bambi peut aller se rhabiller. Mais en fait, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est de Volt Star Malgré Lui, que j'ai découvert.
Oh là là.
Et que. Ah ouais, d'accord, tu me chies ma.
Non, vas-y. Je trouve que.
En fait, j'en attendais pas grand-chose parce que personne n'en parle jamais de ce film.
Ouais, je sais pourquoi.
Et
allez, vas-y.
Bon, en fait, regardez-le, faites-vous votre avis. Moi, je trouve que c'est presque du nouveau Pixar. Il y a des très bons personnages secondaires. C'est très drôle, un très bon Ron.
Je voulais pas te la casser.
C'est un peu le last action hero de Disney, donc
ça c'est vrai. Et je pense que Volt est un très bon film pour les Hugo de 30-35 ans. Mais en fait, l'ayant vu avec des gamins. Les gamins, ils ont rien compris.
Ah, peut-être. Oui. C'est vrai que n'étant pas un enfant,
mise en abîme de c'est un chien, mais en fait c'est un acteur chien qui croit qu'il est super héros et en fait genre il y a toute une mise en abîme.
C'est peut-être trop méta.
Et les enfants, j'aurais demandé alors qu'est-ce que vous avez retenu du film? On se souvient du hamster dans la bulle. Voilà.
Il est génial le hamster dans la bulle.
Il y a un hamster dans la bulle, il est super, mais ils se souviennent que de ça.
Il est hyper drôle.
Et toi, mon petit hamster dans la bulle, Max?
Écoute, moi, je vais pas partir sur un film nécessairement pour les gosses, mais sur une adaptation de BD. Il y en a assez peu que j'aime. Et d'ailleurs, je crois que ça va être la seule vraiment que je porte dans mon cœur. Ça s'appelle Scott Pilgrim versus The World. Scott Pilgrim contre le monde, une adaptation d'un comics de Brian Lee O'Malley. C'est Edgar Wright qui a écrit le scénario, donc qui a écrit l'adaptation et qui a réalisé le film. Je sais pas si on précise Edgar Wright, Shaun of the Dead. Toi, t'es pas fan, non, c'est ça?
Non, c'était, mais.
Voilà, moi, je trouve que c'est une adaptation absolument fabuleuse d'un comics qui est absolument fabuleux. C'est très, très drôle, mais c'est un film que je regarde au moins une ou deux fois par an depuis sa sortie, donc il est sorti il y a 7 ans maintenant. Voilà, c'est un film que je recommande, je trouve parfait et ça me fait mourir de rire du début à la fin.
Alors, tu vois, c'est ça le truc de passer en premier sur la reco, c'est que là, je me dis, ah non, je m'excuse, et là, je meurs d'envie de lui répondre parce que je suis pas complètement d'accord.
Fais-toi plaisir.
Mais non, écoute, c'est un film qui est déjà sorti depuis longtemps, chacun pourra faire son avis. La BD est vachement mieux. Et voilà.
Elle est différente.
Et j'ai oublié Marocco, moi, en fait.
Ah bah vas-y, fais-moi.
Et ben moi, écoute, La fille du 14 juillet, d'Antonin.
C'est nul.
Pas de Jasko. Qui est un très bon film. Par le réalisateur de l'année dernière, c'était La Jungle.
La loi de la jungle,
qui était super. Et pourquoi je mentionne, c'est parce que Nora Hamzaoui a fait une de ses rares apparitions cinéma dans ce film-là. Donc bon, elle choisit de la qualité sûre. Merci à Julie Bill à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à vous abonner sur SoundCloud, pourquoi pas. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. On a rendez-vous avec une nouvelle comédie et j'ai pas encore choisi, je vais être très franc avec vous. Je pense que ça va être la comédie de Dominique Farrugia. On verra bien. Qui vivra verra. À la semaine prochaine.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien.
Et moi, Antoine Cyr.
La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman.
Avec des ressorties.
Des rétrospectives.
Des histoires de cinéma.
Alors, c'est elle aussi, John Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford.
Des livres et des DVD.
Et bien sûr, des invités.
Costa Gavras, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.